Avant d'attaquer le Fishing with Guns et puis votre actualité, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours artistique jusqu'à présent?
Fishing with Guns, en fait, c'est mon premier groupe, parce que du coup, on existe depuis 2005. À l'époque, j'étais encore jeune. J'ai évolué depuis 2005 avec Fishing with Guns, et je suis à la gratte, en fait, dans ce groupe depuis tout ce temps-là.
D'accord. Avant d'intégrer le groupe, tu les connaissais ou comment s'est fait la rencontre?
Moi je bossais en fait avec Guillaume, donc le bassiste du groupe. On bossait ensemble chez un opérateur télécom. On s'est trouvé quelques affinités en voyant que l'un comme l'autre, on avait tendance à regarder les magazines, les sites de guitare, de basse. On s'est dit bah tiens, ça serait pas con d'essayer de faire un groupe de zip ensemble. Et de là, on a commencé, comme tout le monde, je pense, à poster des annonces sur les internets. Donc à l'époque, on a trouvé donc Max, le batteur, à l'origine du groupe, plus Jean, qui était notre chanteur d'époque, et Rémi, un autre guitariste. Donc ça, c'était le line-up original, je sais pas comment tu dis, à l'origine.
C'est ça.
Et du coup, ce line-up, il a duré quand même un certain temps. On a fait plein de choses ensemble. Et après, il a pas mal bougé ces 6-7 dernières années, avec le départ de Jean, notre premier chanteur. Il est parti vivre en fait du côté de Nantes. Et c'est là qu'est arrivé Inigo, notre chanteur actuel. Avec qui on a enregistré Blood Under Rocks, notre dernier EP, plus l'EP dont on parle aujourd'hui, Under the Silver Lake. Et en fait, suite au dernier EP, Blood Under Rocks, quand on a voulu le jouer en live, on se disait, ah, il manque un truc, il manque une gratte, en fait. Et de là, donc, on a cherché un autre gratteux, et là, il y a Mickey qui est arrivé, donc, qui a rejoint le line-up. Et Max, à peu près à la même période, en fait, s'est barré, pour des raisons perso. Max, notre batteur. On a mis quelques temps, par contre, à retrouver, un remplaçant à Max. Depuis un an, Fred, notre batteur actuel, nous a rejoint. Et là, on a ce même line-up, qui est stable depuis un an, là, avec, donc, Fred à la batterie, Mickey et moi à la gratte, Guillaume à la basse et Inigo au chant.
D'accord, ok. Ok,
Voilà,
ok.
et donc là, on a un line-up qui est stable et qui, je l'espère, va rester stable pendant quelques temps là. Je pense qu'on s'entend tous très bien.
Bah effectivement, bah je vous le souhaite, c'est le meilleur moyen de progresser.
Exactement.
Finalement, quel a été toi ton premier contact avec ton instrument, la guitare, et pourquoi avoir pris cet instrument et pas un autre?
Alors moi, mon premier contact avec la gratte, en fait, c'était le grand frère d'un pote quand j'étais, je crois, en 5 ou 5e ou 4e, je sais plus exactement, qui faisait de la gratte. Il faisait de la gratte et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai de la gratte électrique. Hein. Et il m'a fait découvrir Metallica à l'époque. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à écouter du Metallica, puis du Sepultura, du Pantera. Et je me suis mis à la gratte pour rejouer ces morceaux. Voilà, comme je pense pas mal de monde, hein. Tu sais, tu kiffes certains groupes et tu veux rejouer les morceaux, et c'est comme ça que je me suis mis à la gratte.
D'accord. Tu joues sur quoi comme guitare?
Alors moi je joue, alors j'ai, je suis plus un Gibson, hein. Je suis plus un Gibson addict,
D'accord.
mais j'ai pas mal de grattes. J'ai une Les Paul, une SG, donc Gibson. J'ai une Fender aussi, une Strat. Et puis je me suis acheté il y a quelques temps une Super Strat, une Mayence, je sais pas si tu connais. Ouais,
De nom, ouais.
voilà, c'est une marque polonaise de petites grattes bien sympa, plutôt destinée à de la zik un peu violente, quoi.
Oui, c'est ça, c'est un son qui n'est pas fait pour une musique douce, ouais.
Ouais, c'est pas fait pour jouer du jazz, quoi.
D'accord. T'es du genre, donc t'as l'air quand même assez intéressé par l'instrument, t'en as plusieurs, différents
Ouais,
styles.
carrément, ouais.
Tout ce qui est les choses où on rajoute des cordes, on complexifie le truc, les travails des différents luthiers un peu extrêmes, c'est des trucs qui t'intéressent ou pas du tout?
franchement, en fait, moi, je suis hyper, hyper aware, hein, sur la partie guitare. J'ai une passion pour cet instrument. J'ai une passion qui coûte un peu d'argent, on va pas se mentir. Et
Ouais,
donc,
c'est le problème.
j'ai eu pas mal de grades, j'en ai revendu plein. Alors, tu me parlais d'instruments avec plus de cordes. Je me suis essayé à la 7 cordes il n'y a pas longtemps. Et même si en termes de lutherie, c'était complètement dingue ce que j'avais réussi à attraper, eh ben, il y avait une corde de trop. En fait, je pense que j'ai pas non plus pris suffisamment de temps pour apprivoiser la bête. Et donc, j'ai revendu la 7 cordes et je suis resté sur 6. Et après,
D'accord.
je sais qu'il y a des 8 cordes qui existent. Donc, tu vois, je me suis déjà arrêté à 7, donc 8, j'essaye pas.
Non, mais au moins, tu as essayé et c'est ça l'essentiel.
Exactement, j'ai essayé. Je me suis dit qu'il y avait trop de boulot, en fait, pour vraiment, comment dirais-je, appréhender et bien adopter l'instrument et l'utiliser à sa juste valeur.
Parce que bon, ok. Imaginons dans un monde idéal, tu peux travailler avec n'importe quel luthier pour une guitare signature qui t'est personnelle. Tu prendrais qui comme ça au hasard?
Tu me parles de luthier ou
Oui, 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 oui. Une guitare
des
signature chez
luthiers.
un luthier, mais juste pour toi. Enfin, tu vois que.
Alors je vais faire de la pub pour une marque avec qui on avait sympathisé il y a quelques années. Donc je discuterai avec Wild Custom, qui est une marque, c'est un luthier sur Clermont. Et il y a quelques années de ça, en fait, on avait super sympathisé avec ces gars-là. Et maintenant, ils se sont fait quand même une petite renommée en France. Ils font des trucs de dingo, d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, si je pouvais, dans un monde rêvé, ouais, je travaillerais bien avec eux.
Ok, bah écoute, le message est lancé dans tous les cas, hein, c'est dans jamais.
Sait-on jamais?
Peut-être pour essayer de donner un peu aux gens qui n'auraient pas la grande chance de connaître Fishing with Guns, peut-être plus parler, décrire la musique, c'est toujours compliqué, surtout pour les musiciens eux-mêmes, peut-être plus par les influences dans le groupe qui réunissent tout le monde, tu vois, qui réunissent tous les membres.
Alors, qui réunissent tous les membres, je pense qu'il y a des classiques, un Pantera, je pense que ça fait bien tout le monde. Je te parle pas de mes influences personnelles, hein,
Oui,
parce que
mais plutôt
ça fait bien pas tout le monde.
les
Je pense que
communes,
des groupes, plus actuels, type Every Time I Die, je sais pas si ça te parle,
ouais.
Wife is Lips, ce genre de choses, ça, Lamb of God. Tu vois, ça va parler à tout le monde, ça.
D'accord, ok. Parce que toi, tu serais plus extrême? Ou
Non,
pas spécialement, non?
alors moi j'ai une culture classique, hein, classique metal, d'ailleurs Metallica, Sepultura, Fear Factory, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Hein,
Ouais, ok.
moi c'est le metal des années 90, hein, je suis passé par Korn aussi, tout ce qui était nu metal.
D'accord.
J'aime bien tout ce qui est thrash aussi, là je m'y remets d'ailleurs ces derniers temps. Donc ouais, j'ai plutôt une culture, alors moi j'appelle métal, enfin, je suis un peu paumé moi avec toutes les étiquettes.
Oui, comme tout le monde, ouais.
Ouais, je t'avoue que je suis un peu paumé, mais par contre, ouais, ces 20 dernières années, j'ai écouté un max de hardcore, des trucs type Comeback Kid, je te parlais d'Every Time I Die, aussi j'aime beaucoup tout ce qui est atmosphérique, tout ce qui est dans des styles type Cult of Luna, Amenra, Neurosis, enfin voilà, enfin tu vois, c'est assez divers et varié. J'aime bien le post-rock aussi avec des groupes comme Mogwai, enfin j'aime plein de trucs, quoi.
Ok. Donc comme tu le disais, tu l'avais déjà un peu parlé, en 2018 vous sortez un EP qui s'appelle Blood on the Ropes après deux albums. Finalement, si tu avais, est-ce qu'il y a, alors c'était une période particulière comme tu disais parce qu'il y avait eu un gros changement dans le groupe, le line-up. Est-ce qu'il y a un souvenir ou un truc particulier de cette période qui pour toi, tu vois, un peu synthétiserait cette période pour les groupes?
Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin.
Est-ce qu'il y aurait un souvenir, un concert ou un événement particulier autour de la période Blood on the Ropes qui synthétiserait cette période pour toi?
Alors, sincèrement, je vais te parler du concert qu'on a fait au Gibus en première partie de Agnostic Front. En fait, ça a été pour nous tous, en fait, un gros gros kiff en fait de jouer pour ces légendes du hardcore new-yorkais. Voilà, c'était vraiment un gros gros kiff, et en plus ça coïncidait avec l'arrivée de Mickey en fait, le gratteux actuel, et on a joué des titres de Blood Underhops et puis des anciens albums, et c'était vraiment que du bonheur.
Le risque de côtoyer des légendes, c'est que, in fine, si c'est des connards finis, c'est un peu dommage. Donc là,
Ouais, bah non,
avec
là, en
Agnostic, ça s'est
l'occurrence,
bien passé?
les mecs, c'était des crèmes, quoi. Des gars hyper cool. Enfin, tu vois, le gratteux, alors, je me rappelle plus de son nom, mais de son nom. Le gratteux un peu mythique d'Agnostic, le gars hyper accessible. Non, ça m'a d'ailleurs étonné, hein, des légendes comme ça qui viennent boire une bière avec toi, taper la discute. Non, c'est pour ça que c'était vraiment un super souvenir pour nous tous.
Et pas le côté la groupe de première partie, rien à foutre, et donc
Non,
faites de
non,
la place quoi.
exactement. C'est pas, on est dans des locaux différents, dans des salles différentes, je pense pas. Non, on était au même endroit, on faisait la même chose, on buvait les mêmes bières, on tapait la discute ensemble. Alors, franchement, impressionné par l'humilité des gars, quoi.
D'accord. Alors on peut se dire, le groupe a sorti deux albums, d'abord coup sur coup. Alors il y a eu mémoire 7 ans entre les deux, il y a 2010-2017, un truc comme ça. Et puis après, là, donc, un EP en 2018, et puis après, vous revenez, non pas avec un album, mais avec un EP. Est-ce qu'il faut comprendre que vous n'avez pas attaqué un album tout de suite, parce que d'abord, il fallait sortir quelque chose assez rapidement, entre guillemets, pour se rappeler au bon souvenir du public, et puis travailler sur du plus long terme par la suite, ou il y a une autre idée derrière?
Alors, sur le dernier EP, l'idée c'était de faire un album au départ. On voulait faire un album. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des événements perso, plus la crise sanitaire qui est passée par là, qui ont fait que on n'a pas eu le temps de suffisamment se poser pour avoir 8, 9, 10 titres en fait pour pouvoir derrière enregistrer un album. Par contre, on avait 5 titres qui sont ceux de l'EP qu'on avait maquetté, qu'on avait enregistré. Et puis on était hyper hyper content, hyper fier de tous ces titres, et on voulait les enregistrer pour d'une part, faire connaître le nouveau visage de Phishing à tout le monde, et ça permet aussi de faire connaître Mickey, qui est notre nouveau gratteux et qui a œuvré un max en fait sur cet EP, et Fred, notre nouveau batteur. Et sans ce support-là, en fait, c'est compliqué en fait de faire de la com sur les nouveaux membres du groupe. Donc
D'accord.
c'était un argument, et puis on voulait aussi rapidement faire des concerts.
Ok. Le ces titres, vous les aviez composés quasiment dans la foulée de Blood on the Ropes, ou tu penses qu'il y a une tu trouves qu'il y a une continuité directe, ou c'est une autre visage du
Non,
groupe?
non. Ouais, c'est un visage, je pense que tu as dû t'en rendre compte, hein, c'est complètement différent. Non, non, on avait composé quelques titres dans la lignée de Blood Underhops, mais qui étaient plus sur un feeling bien rock'n'roll, à l'image de Blood Underhops. Et on avait commencé à écrire des morceaux qui étaient plus metal, donc plus à l'image de Silverlake, pardon. Et finalement, les morceaux dans la lignée de Blood Underhops, on les a abandonnés. On a trouvé que ça matchait pas avec la nouvelle orientation artistique et musicale des Fishing with Guns. Et puis du coup, avec l'arrivée de Mickey, il était hyper créatif. Hyper créatif, il a vachement composé aussi sur Under the Silver Lake. Et Mickey, il a des influences plus metal en fait que rock'n'roll. Donc
D'accord.
il y a ça qui fait que l'orientation de cet EP, il est quand même plus métal, parce que Mickey a composé à 80% l'EP, tu vois.
Vous avez durci le ton, c'est clair. Donc,
Ouais.
d'accord. Donc, à la fois naturel et apporte du son nouveau, des nouveaux quoi.
Exactement.
Et justement, comment vous avez une espèce de une routine pour la naissance d'un titre au sein de Fishing with Guns?
Du coup, ça a pas mal changé, parce que au tout départ, on composait pas mal à 2-3 avec Mickey, Inigo. On se donnait rendez-vous chez Mickey, et on faisait tourner des riffs. Et puis lui derrière, comme c'est un ancien batteur, Mickey, Il écrivait les pistes de batterie. Donc on a fonctionné comme ça. Et puis après, ben, ce qui s'est passé, c'est que Mickey, il avait plein d'idées, hein, trop plein d'idées. Il avait besoin en fait de les enregistrer. Et du coup, il nous a glissé trois titres qui sont sur l'EP en quasi autonomie, tu vois. Donc, il était chez lui, et il a tout enregistré, les grattes, et puis il a écrit les batteries. Et du coup, il nous a partagé tout ça, et on a complètement adhéré, quoi. On a kiffé son taf, et on s'est posé dessus, quoi. Derrière, on a posé les grattes, les basses,
Ah donc
et voilà, quoi.
il a quasiment entièrement maquetté trois titres.
Ouais, tout à fait.
Et donc vous êtes échangé et puis après chacun a ajouté sa patte pour donner.
Ouais, mais je te dis, c'était trois titres qui étaient quasi finalisés, hein. On avait quasiment plus rien à faire, juste à l'exception du chant, hein.
Ouais, bien sûr.
Enfin, juste de la partie instru. Du coup, en fait, comme ils étaient bien, les titres, il n'y avait quasiment rien à toucher. Bah, du coup, on les a laissés en l'état, et derrière, en fait, Inigo, lui, il a rajouté toute la partie chant et harmonie autour du chant, et voilà, quoi. Les morceaux étaient dans la boîte, quoi.
D'accord. Pour l'enregistrement, ça a été donc Francis Cast, Studio Sainte-Marthe. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général de cette partie enregistrement et est-ce que vous aviez modifié votre façon de travailler par rapport aux travaux précédents?
Ouais, bah du coup, bah comme je te le disais, en fait, on a vraiment changé notre façon de bosser, parce que là, on arrive en studio avec une maquette, en fait, une maquette hyper chiadée, quoi, avec les grattes. On avait déjà des basses, on avait les pistes de voix, on avait les pistes de batterie. Donc, tu vois, on a présenté ça à Francis, et il s'est fait une idée bien précise, tu vois, de l'orientation qu'on avait pris avec ce nouvel EP. Donc on est arrivé avec un produit pas quasi fini, mais pas loin, tu vois. Et là-dessus, Francis, lui, il a apporté toute son expérience, son savoir-faire, et du coup, il a sublimé le truc. Il a fait en sorte que les grattes, elles sonnent le plus naturel possible, parce qu'on voulait pas des grattes ultra compressées avec une prod un peu chimique. Enfin bref, on lui a expliqué ce qu'on voulait. Et en fait, il a réussi à faire le mix qu'on attendait, quoi. Le mec est super fort, quoi.
D'accord. En termes de calendrier, ça a pris combien de temps pour mettre tout ça en boîte?
Ça a pris un certain temps. Alors, attends que je réfléchisse. Ça a pris, allez, peut-être 12 jours de souvenirs, un truc comme ça. 12 jours. Si tu les mettais bout à bout, ça ferait 2 semaines, tu
D'accord.
vois. Dans les faits, on n'a pas pu faire ça bout à bout, mais dans l'idée, c'est ça, c'est 2 semaines de boulot en studio.
Et vous avez fait le truc classique, d'abord section rythmique, puis les guitares, puis le chant à la fin?
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
En général, toi, sur un titre, tu passes sur, tu fais combien de prises?
Là, c'est pas simple, hein. Je pourrais pas te dire combien de prises on a fait. Des fois, ça passe du premier coup. Des fois, tu vas buter sur un petit passage à la con, et tu vas y passer 10 prises, bon, avant que ça sonne bien. Mais globalement, on a rentré les trucs assez vite, hein, parce qu'on les avait vachement bossés en amont chez nous, en fait. Comme on avait, comme je te le disais, une maquette qui était bien chélevée, donc on avait eu le temps de bien bosser chez nous pour arriver bien pris en studio.
Et en studio, vous savez exactement ce que vous voulez ou vous laissez des différentes alternatives? On fait comme ci,
Non,
comme ça et on
alors,
voit après. Parce que bon, le
voilà,
studio
là
coûte cher, donc bon.
on avait une idée quand même bien précise de ce qu'on voulait. Après, Francis nous a filé quand même pas mal d'idées d'arrangement. On a rajouté quelques grattes qu'on n'avait pas sur la maquette d'origine. Et au niveau des voix, en fait, il a fait un travail de dingue avec Inigo pour trouver des arrangements au niveau des voix, plusieurs pistes pour qu'elles soient. Bah, pour que tu aies cette sensation de volume au niveau de la voix. Et puis derrière, bah, tu as le mix final. Là-dessus, bah, on a laissé carte blanche à Francis. On a fait confiance à son expérience et du coup, il nous a présenté le produit finalisé et on a cliqué.
D'accord. Ce que tu disais, c'est que donc les cinq titres qui apparaissent sur l'EP, c'est les cinq titres finalisés. Vous n'avez rien écarté.
Non, c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. On est arrivé avec cinq titres et c'est les cinq titres que tu as sur l'EP.
Question un peu idiote, je m'en excuse, mais est-ce que vous vous êtes pris un peu la tête pour savoir l'ordre des titres? Est-ce que le tracklist, c'est un truc qui vous. Quelle importance ça a pour vous?
C'était important bah, pour qu'on trouve une cohérence en fait souvent entre les fins des morceaux et les débuts des autres. On savait quel titre allait commencer l'album. On savait quel titre allait terminer l'album. Et il y avait trois autres titres à caler entre le premier et le dernier titre. Et là,
D'accord.
on a vu comment ça matchait entre les fins et les débuts de chaque morceau pour créer une sorte de cohérence en fait du début à la fin de l'EP.
Sur les cinq, t'as un titre préféré?
Personnellement, mon titre préféré, c'est Homeless Ghost, celui qui est en plein milieu de l'EP.
D'accord. L'aspect visuel, la pochette, vous l'avez travaillé comment?
Alors, l'aspect visuel, là, tout le mérite revient à Max Treillard. Maxime Treillard, c'est notre ancien batteur qui est dans le milieu artistique, graphique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit que l'ensemble des paroles tournaient autour du film Under the Silver Lake. On a essayé de lui faire un pitch à peu près précis, mais bon, comme c'est pas notre métier, on lui a fait un pitch tout pourri. Donc en fait, il a finalement fait bah, ce qu'il voulait. On lui a laissé carte blanche, et puis bah, du coup, il a fait les visuels que tu as pu voir sur le texte.
Sont plutôt très bien, il a eu raison de faire ce qu'il voulait, quoi.
Exactement. On lui a dit, t'as bien eu raison de pas écouter toutes nos conneries et de faire ce que tu avais envie.
Comme quoi, les artistes, il faut écouter et puis après, n'avoir rien à foutre et faire ce qu'il veut, quoi.
Exactement. Non, là-dessus, il a fait des trucs top. On est tous, il nous les a, enfin, je me souviens, il était venu, il nous les a présentés, on était bouche bée, quoi. On s'attendait à rien, puisque au final, bah, comme on n'avait pas du tout été clair dans ce qu'on voulait, on s'attendait à rien, et puis bah, du coup, il a mis tout le monde d'accord.
Ok. Signature chez MEO Musique, signature logique.
Ouais, alors logique, je ne saurais pas te dire. C'est juste que nous, en termes de connaissances, de groupes qu'on voit, tu sais, c'est juste au niveau de ce qu'on peut voir passer sur Facebook, sur Instagram, d'autres groupes qu'on aime bien. Donc on a vu que ce label MNO était plutôt actif sur les réseaux. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait travailler avec eux.
Et pour l'instant, tout se passe bien, avant quelques jours avant la sortie de l'EP?
Ouais, tout se passe très bien.
Nickel. Vous avez sorti donc aussi un clip vidéo pour le titre All Skis. Donc il y a un titre, qui est un clip vidéo donc avec très, très graphique, avec du dessin, etc. Et puis cette fameuse chouette. Comment ça s'est fait, ça aussi?
Ça, on a fait appel en fait au service de Julien Grenier, qui est un super pote de Mickey, qui pareil travaille dans tout ce qui est multimédia. Et en fait, ce qu'on avait vu avec lui, c'est qu'on souhaitait faire une lyrics vidéo à partir des visuels de Max. Et donc, bah de là, on lui a filé l'ensemble des visuels dans les formats qu'il nous avait demandé. Et pareil, hein, on lui a laissé carte blanche, on lui a dit vas-y, fais-nous un truc qui défonce. Et il nous a fait un truc qui, je pense, est plutôt cool, quoi. Et donc on a pas beaucoup échangé, hein, sur le truc. En fait, il nous a montré au fur et à mesure l'état d'avancement de son boulot. Et à chaque fois, c'était très cool. Donc on est hyper content du résultat.
Ah bah vous avez raison parce que j'ai vu des trucs des gros beaucoup plus gros avec des beaucoup plus gros budgets qui ressemblaient pas à la quart de la moitié de ça quoi.
Bah c'est sympa en tout cas, c'est sympa. On lui repassera tous ses compliments.
Niveau clip, il y a d'autres choses dans les tuyaux ou pas?
Ouais, il y a un autre truc qui est en cours, bah justement sur le titre Homeless Ghost dont on parlait tout à l'heure. Il y a un clip qui est dans les tuyaux. On espère qu'on va pouvoir le sortir courant novembre.
Mais un truc que vous avez tourné ou vide les lyrics aussi?
Ouais, non, c'est un truc, c'est pas une lyrics, c'est un clip là cette fois-ci.
D'accord. Scénarisé, machin, enfin voilà.
Ouais, scénarisé, machin, qui sera pas en mode groupe dans une cave avec de la fumée ou voilà,
D'accord.
ou en munocheveux parce qu'on n'a pas de cheveux, mais voilà,
Ok.
ce sera différent.
Mais et ça, c'est déjà dans la boîte ou c'est en cours de?
Non, c'est en cours, et pareil, on bosse avec Julien. Le tournage a été fait, et maintenant, il y a tout ce qui est post-prod
D'accord.
qui est actuellement en cours.
Ok. Est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, le bordel actuel, là, la pandémie, les machins, ça a eu un impact sur le pays?
Je pense pas. Je pense pas que. Enfin, je te dis ça. Je dirais, je pense pas, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est Mickey qui a composé à 80% toute la partie instru. Est-ce que lui, derrière, parce que je peux parler à sa place, hein, est-ce que lui, il a été affecté par le Covid? Est-ce que ça l'a inspiré
Bah écoute,
Bon, je ne saurais pas te répondre. En tout cas, d'une manière générale, non, le groupe n'a pas été directement impacté.
ok, et bah écoute, tu lui demanderas et puis on en reparlera pour la sortie du prochain album.
Ouais, c'est clair.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les semaines et les mois qui viennent?
Et moi qui viens, bah déjà qu'on ait une belle visibilité sur les internets, hein, avec cette EP, qu'on ait un max de retours, on l'espère, positif. Et puis derrière, nous, l'idée derrière, c'est que bah, justement, la visibilité qu'on va pouvoir avoir avec cette EP, ça va nous permettre de faire des belles dates. Ce qu'on a envie, c'est de faire des concerts, c'est ça l'idée. Hein.
Il y a déjà des jalons posés côté concert?
Non, on n'a pas d'annonce à te faire là. Pour l'instant, c'est un peu calme. C'est un peu calme, mais c'est pas évident d'avoir de la visibilité sur les concerts.
D'accord, mais c'est vraiment votre priorité de première là sur les
Ouais,
mois qui
ouais.
viennent.
Ouais, carrément. Nous, c'est derrière qu'on puisse surfer sur cette EP pour pouvoir se faire des dates. Bon, maintenant, on se dit 2022, hein,
Oui, bah
parce qu'on
oui.
n'a pas de bol. On a notre batteur Fred là, qui s'est ruiné le bras. Donc, de toute façon, lui, il est de toute façon aux arrêts pendant un bon mois, là, je pense.
D'accord.
Donc voilà. On n'est pas pressé. Tout de suite de reprendre la route, mais on espère bien pouvoir faire des concerts cool l'année prochaine.
Vous faites un événement en ligne ou en réel ou en virtuel
Release.
pour la release, ouais?
Pour l'instant, non, on n'a rien prévu. On n'a
D'accord.
rien prévu. Mais ouais, quand on espère bien, bah, je te dis, l'année prochaine, pouvoir faire une release avec notre nouvelle.
Ok, juste une petite question pour terminer. De ton expérience ou de ta fenêtre, comment tu vois la scène rock metal française?
Moi je la trouve hyper riche, perso. Il y a un max de groupes avec des trucs et ce dans toutes les branches. Ce qu'on disait, les étiquettes, c'est compliqué, mais dans toutes les branches métal, il y a un max de trucs hyper cool. Évidemment, parler de Gojira qui est, je pense, rentré dans une autre dimension. Mais on voit qu'il y a les groupes qui, finalement, type Massisteria, bah, ils tournent depuis tellement d'années, ils sont toujours là. Et puis après, dans d'autres courants, il y a des groupes comme Birds in Row, bah, qui défoncent tout aussi, qui ont de la visibilité à l'international. Enfin bref, je trouve qu'il y a une putain de scène française avec des putains de groupes. On parlait de. Je t'ai pas parlé, mais il y a aussi Hangman Chairs, bah, pareil, qui a été produit chez Francis, qui, dans un autre style, bah, qui défonce tout aussi. Enfin bref, il y a une belle scène française, je trouve.
Vous ne savez peut-être pas encore, mais l'idée c'est pour la suite, c'est un album ou potentiellement un EP?
Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire. En fait, on est en discussion là-dessus. En fait, on sait pas trop. En fait, on va discuter entre nous, entre la pertinence de faire un album avec une dizaine de titres et toute cette cohérence autour d'un album, versus bah, finalement l'écoute de la musique qu'on a actuellement. Donc, avec un, deux titres, puis on passe au suivant. On sait pas trop, en fait, quelle est la bonne approche. Est-ce que l'idée d'album est toujours d'actualité, ou est-ce qu'il faut plutôt faire des formats sur un ou deux titres et donner du contenu régulièrement? Tu vois, on se pose la question.
D'accord, bon écoute, on patientera pour savoir. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Et
Ben
puis
de rien, merci à toi.
et puis tous nos voeux pour la suite. À bientôt.
Merci, au revoir.
Ciao.